enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Donc voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et je possède ce qu'elle dit que je possède. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu et je proclame hardiment, mon esprit est ouvert, mon intelligence est réceptive, mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Il y en a qui la connaissent déjà. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Je ne serai plus jamais le même. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Dans le nom de Jésus. Nous allons lire ce matin dans 1 Thessaloniciens 5, la volonté de Dieu à ton égard. Dites-le à votre voisin. C'est la volonté de Dieu à ton égard. Vous savez, quand je vous dis ça, que vous pouvez le dire à votre voisin, c'est super parce que ça vous permet des fois de dire à votre voisin des choses que vous auriez voulu dire depuis longtemps, mais vous n'osiez pas. Alors là, moi, je vous tends la perche et vous êtes capable maintenant de lui dire une parole. Alors, la volonté de Dieu à ton égard, c'est 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux. 17, priez sans cesse. 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ensuite, il y a, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et puis, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Alors, qu'est-ce que je vais dire de tout ça? Je voudrais dire ce matin que nous pouvons être heureux dans l'Église. Si, si, c'est vrai, je vous assure. Nous pouvons être heureux dans l'Église, ou à l'Église, comme vous préférez. Quelqu'un a dit une fois, je vais dire ça en introduction, a dit quand ils voient les chrétiens aller à l'Église, c'est comme quand ils vont chez le dentiste. Quand ils y vont, chez le dentiste, qu'est-ce qui se passe? En général, on ne va pas chez le dentiste, joyeux. C'est un mauvais moment à passer. Tant pis pour les dentistes, c'est pas très encourageant pour eux. Mais c'est parce qu'il y a un problème souvent qu'on va chez le dentiste. Il y a peu de gens qui vont chez le dentiste juste pour faire un contrôle, pour qu'ils constatent que tout va bien. En général, on y va parce que déjà ça fait mal. Et on a peur quand on y va que ça fasse encore plus mal. Et quand on ressort de chez le dentiste, on est soulagé parce que c'est terminé. D'accord? Et c'est ce qui se passe, hélas, chez certains chrétiens. Je n'invente rien. On va à l'église comme si on allait chez le dentiste. On va déjà mal et on a peur que ça fasse encore plus mal. Mais la Bible, un dentiste c'est un chirurgien, hein, chirurgien-dentiste. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12 que Dieu est celui qui opère tout et en tous. C'est lui qui mène l'opération. Et c'est vrai que ça peut des fois faire un petit peu mal, mais c'est toujours pour notre bien, d'accord? Et il a aussi des moyens de beaucoup supérieurs à ce que les hommes ont pu inventer pour anesthésier. Il a des moyens pour vous aider à passer chaque crise de la vie. Vous le croyez ça? D'accord? Mais c'est lui qui opère tout en tous. Donc la solution, nous le savons, comme pour le dentiste, la solution ce n'est pas de rester chez soi. Ça ne va pas s'améliorer comme ça. Mais la solution, c'est d'y aller et maintenant de découvrir qu'on peut être heureux d'avoir vécu cette expérience. Une expérience qui va conduire à la guérison. Une expérience qui va conduire à un bien-être. Et donc, on peut être heureux dans chaque étape de l'Église. Vous le croyez ça? C'est possible, parce que c'est ce que Dieu veut. Parce que si nous, nous sommes des gens qui traînons les pieds et qui ont une triste mine, alors on ne peut pas dire d'autre. Tu ne voudrais pas aussi accepter Jésus comme moi, etc. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Et ce plus, c'est pas n'importe quoi. C'est la vie de Dieu elle-même. La vie de Dieu en nous. Donc, on va voir, ça va pas être long, donc ne vous effrayez pas, mais j'ai 12 raisons pour être heureux dans l'Église. Tout le monde dit 12? 12. Ça suffit, les doigts de la main ne suffisent même pas, il faut encore rajouter 2. Premièrement, je suis heureux d'y aller. Heureux d'y aller. Heureux à l'idée d'y aller. D'accord? Nous pouvons être heureux à l'idée d'y aller. Il y a une différence, justement, entre le désir qui nous pousse et qui nous attire à aller là où le Seigneur manifeste sa présence, aller là où sont les autres frères et sœurs en Jésus-Christ, et le devoir d'y aller parce qu'il faut que j'y aille. Si vous en êtes là, eh bien, je suis bien triste pour vous. Bien triste pour vous. Mais je ne vais pas pleurer longtemps parce que la joie du Seigneur est ma force. J'ai passé trop d'années à pleurer sur tout ce qui ne va pas chez les gens. Et vous savez quoi? Je n'ai pas pu les aider comme ça, et moi-même, ça m'a fait que du tort. Alors, je ne vais pas dire que vos problèmes ne m'intéressent pas, ce n'est pas ça. Mais je veux dire que, une fois pour toutes, j'ai pris la décision que rien n'allait entacher la joie du Seigneur qui est ma force. D'accord? Et si vous avez des moments difficiles, ça ne veut pas dire que je ne les comprends pas, ça ne veut pas dire que je suis insensible, mais ça veut dire que je vous montre le chemin. Disons, mon ami, monte plus haut. Monte là dans la présence de Dieu où il y a des solutions. Et si tu n'arrives pas à monter, je veux bien te tendre la main pour t'aider à monter. D'accord? Mais je ne vais pas descendre pour m'asseoir avec toi dans la misère. Vous savez, la miséricorde de Dieu, c'est la corde que Dieu nous jette dans notre misère. C'est pour nous en sortir. Un seul est venu à partager l'humanité, d'accord, pour que nous puissions maintenant accéder dans la présence de Dieu. Alors, nous n'avons pas besoin de refaire l'œuvre de Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a souffert, ça suffit. Ça suffit. Il a souffert. Il est descendu, et est descendu même plus bas qu'on ne peut imaginer, pour que nous puissions être élevés. Alors maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous ne voulons pas descendre, nous voulons aider les gens à monter, à s'élever. S'élever, ça veut dire jusque où? Jusque assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est une position spirituelle. Donc, c'est dans l'esprit que ça va se faire. Donc, vous pouvez être heureux à l'idée d'aller à l'église. L'idée d'aller à l'église, ça veut dire c'est le lieu de mon rendez-vous avec Dieu. C'est là que ça se passe. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres rendez-vous avec Dieu dans la semaine. Mais ça, c'est un rendez-vous particulier. Et moi, je suis heureux à l'idée d'y aller. Parce que je sais que c'est mon rendez-vous avec le Seigneur. Il y a là des choses qui vont se passer, qui ne se passent, on peut dire, nulle part ailleurs. Et comme le petit chant qu'on prend des fois, moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Et après, dans les strophes, il est dit, là sont réunis mes amis, mes frères, ceux qui me comprennent parce qu'on partage les mêmes choses. Il y a donc une joie à aller à l'église, je suis heureux à l'idée de rencontrer des gens qui partagent ma foi. Ce n'est pas toujours le cas dans ma vie de travail, de tous les jours. Il n'y a pas tout le monde qui partage la joie du Seigneur, d'accord? Il y a peut-être même, et je sais quelque chose, de l'hostilité, de l'agressivité. Des gens qui ne veulent pas de Dieu. Des gens qui ne veulent pas de Dieu. Donc là, heureux parce que je sais, c'est un endroit où des gens partagent les mêmes choses que moi. Philippiens 4, me semble un passage très important aussi. Philippiens 4, au verset 11. Je prends juste ça. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Est-ce que vous avez appris ça? Vous avez appris à être content dans l'état? Il n'est pas dit dans ma Bible de l'état. D'accord? Je ne me réjouis pas quand tout va mal. Mais j'apprends à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Vous pouvez aussi apprendre à être content et heureux dans l'état dans lequel vous êtes. L'état dans lequel vous êtes ce matin, là sur votre chaise, avec ce qui se passe autour de vous. Si la joie du Seigneur vous est communiquée par seulement votre entourage, alors ce n'est pas la joie du Seigneur. Alors c'est une atmosphère, c'est une ambiance. La joie du Seigneur, elle est là, permanente. C'est le bonheur auquel j'ai droit en tant qu'enfant de Dieu, où que je sois, quel que soit l'environnement. Elle ne bouge pas, elle dépend de Dieu. Deuxième raison d'être heureux d'aller à l'église, c'est que je peux y aller. Pourquoi ? Mais parce que j'ai deux jambes. Tout le monde dans le monde n'a pas deux jambes. Je suis heureux d'aller à l'église parce que j'ai le pouvoir d'y aller. Parce que peut-être, ce matin, j'avais une voiture pour me déplacer. Et tout le monde n'a pas une voiture pour se déplacer. Et vous savez, ça peut être un sujet de grande souffrance si vous désirez rejoindre des frères et sœurs, mais que vous êtes bloqués chez vous à la maison. Certains ont une voiture, mais elle est en panne. Elle est en panne et ils n'ont pas les moyens de la faire réparer. Alors, ils ne sont pas heureux de pouvoir aller à l'église. Mais vous, vous pouvez être heureux parce que vous avez pu vous déplacer. Certains ne peuvent pas aller à l'église parce qu'ils sont maintenant dans un hôpital, cloués sur leur lit. Alors, ils ne peuvent pas être heureux de pouvoir aller à l'église. Toutes les raisons que vous avez d'être heureux de pouvoir aller à l'église. C'est fantastique. Parce que ce matin, vous avez pu vous lever. Vous avez reçu du Seigneur la force de vous lever et la capacité d'aller. Rien, je pourrais m'arrêter déjà, on pourrait passer tout le reste de la journée à louer Dieu, rien que pour ça. N'est-ce pas vrai? Je peux être heureux de pouvoir aller à l'église parce qu'il y en a une. S'il n'y en avait pas, je ne pourrais pas y aller. Et il y a des endroits, ils ne sont pas heureux de pouvoir aller à l'église parce qu'il n'y a pas d'église. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se rassembler. Ou parce qu'ils n'ont pas le droit de proclamer qu'ils croient en Jésus. Ou parce que toutes sortes d'autres raisons. Et il y en a des millions comme ça sur Terre. Mais nous, nous pouvons être heureux d'aller dans une église qui existe. Et on peut vivre notre foi librement. On peut proclamer ce qu'on croit. On peut ouvrir notre bouche. Dans toutes les églises, vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche. Parce que ça dérange. Dans toutes les églises, vous ne pouvez pas amener vos enfants. Parce qu'on va vous regarder de travers. Parce qu'ils font du bruit. D'accord? Donc, il y a toujours toutes sortes de raisons pour lesquelles nous pouvons être heureux dans les choses que nous vivons avec Dieu. Troisième raison. Je suis heureux d'être à l'église parce que j'ai trouvé une place. Encore quelques places libres. Mais il y a des endroits où ça pose un vrai problème. Il n'y a plus de place. N'êtes-vous pas heureux que vous ayez pu rentrer et trouver une place? Il y a des endroits où actuellement, ils font la queue pendant des heures pour pouvoir rentrer. Ben pour le moment, on peut considérer que c'est un sujet de joie. Si l'autre problème nous arrivait, on pourrait dire, ben on est content aussi parce qu'il y a le réveil, il y a des milliers de gens qui viennent. Mais vous savez, au milieu d'un réveil, il peut de nouveau y avoir des problèmes. Qu'est-ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres, acte 6? Il y avait le réveil, il y avait plein de gens, et tout de suite il y a eu des problèmes. Ça murmurait, ça rouspétait. Ceux-là sont mieux traités que ceux-là, etc. Donc, je suis heureux de ce matin parce que j'ai trouvé une place. Si vous deviez être debout pendant tout le temps, peut-être ça vous ferait murmurer ou grogner. Ça arrive. Oui, même chez les chrétiens, ça arrive. Ça ne devrait pas, mais ça arrive. Quatrièmement, je suis heureux non pas parce que j'ai trouvé une place, mais parce que j'ai trouvé ma place. C'est différent. Et ma place, c'est celle qui va vraiment me rendre heureux d'être dans l'église. Pas n'importe où, mais ma place. Celle que le Seigneur a préparée pour moi. Vous savez, il a dit... Je m'en vais au Père et je vais vous préparer une demeure, une place, un endroit. Il y a un endroit qui vous est réservé. Vous n'aurez pas besoin de faire la queue, vous n'aurez pas besoin de vous disputer, vous dire « ça c'est ma place, non c'est ma place ». Non, le Seigneur va veiller lui-même et dire « ça c'est ta place ». Alors on peut extrapoler, je ne sais pas où elle sera. Hein. Il y en a qui pensent que pas, les martyrs, les gagneurs d'âmes, ils seront tout devant, et nous on verra Jésus de loin. Ça, c'est que des raisonnements humains. Parce que Dieu est tout aussi proche de chacun d'entre nous, déjà maintenant. Alors j'ai trouvé ma place. Peut-être vous n'êtes pas encore heureux d'avoir trouvé votre place, mais vous pouvez demander à Dieu où elle est. En tout cas, soyez sûr qu'il y en a une. Il y en a une. Quand on pense aux places, peut-être vous avez aussi trouvé votre place physiquement dans la salle. Il y en a qui aiment les places dans le fond et leur place. Et ils sont contents quand ils sont à leur place, parce qu'ils sont derrière, là où on les voit moins. Et il y en a qui aiment être devant. Donc il y en a qui sont heureux parce qu'ils ont trouvé leur place, c'est mon numéro 5, une place devant. Paradoxalement, du temps de Jésus, dans les synagogues, tout le monde se précipitait pour aller devant. Et maintenant, dans les églises, souvent les gens se précipitent pour être derrière. Et C'est un changement hein, dans les mentalités, certainement. En réalité, ce qui les animait pour être devant, c'est qu'ils voulaient être vus. D'accord? Ils voulaient être en vue et qu'on les salue. Rabbi, maître, et etc. Et donc, Jésus avait donné ce conseil, que certains suivent, de se mettre tout derrière. Comme ça, publiquement, on leur dit, « Mon ami, monte plus haut et ils sont honorés. » Mais certains, si je leur disais ça, « Écoute, toi qui es tout derrière, tu veux pas te mettre là, dans le premier rang ?» Ils ne se sentiraient pas honorés, mais gênés. « Mince, maintenant je suis obligé d'être tout devant, là où on me voit, alors que je voulais être tranquille derrière. » Je ne critique pas ceux qui sont derrière, parce qu'il y a aussi des places importantes derrière, devant, partout. Mais donc, on peut être content d'avoir trouvé notre place aussi dans l'endroit. Et souvent, on se rend compte que assez rapidement, vous avez trouvé maintenant, on est dans une salle nouvelle, vous allez trouver votre place et même les yeux fermés dans quelques semaines, je pourrais dire à peu près sûrement où est tout le monde, d'accord? Mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que peut-être c'est un endroit où vous vous sentez bien. Ça, c'est ma place. Ce qui veut dire que peut-être le Seigneur va agir aussi dans notre vie pour des fois dire, mon enfant, tu étais bien dans cette place pendant un temps. Mais maintenant, il faut que tu te déplaces parce que j'ai une autre mission pour toi. D'accord? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est derrière et il y en a d'autres qu'on ne peut pas faire quand on est devant. Vous avez suivi? On était au numéro 6. Donc, concernant la place, c'était le 3, 4, 5, 6. Quatre raisons d'être heureux d'avoir trouvé une place. Le numéro 7, c'est « Je suis heureux dans l'église ». Dans le moment de louange. Le moment de louange, alors je voudrais juste dire quelques mots. Premièrement, ce n'est pas une chorale, d'accord? Le moment de louange, ce n'est pas une chorale où des gens s'entraînent à chanter pour d'autres. Souvent la chorale, c'est ça. La chorale, c'est on aime le chant, on aime travailler sa voix, on veut faire joli, on veut chanter pour d'autres. Souvent c'est dans un but de concert. Bien sûr, une belle chorale, ça peut aussi être pour louer Dieu. Mais le moment de louange, ce que nous faisons, n'est pas avant tout une chorale, ni un concert, ni un spectacle. Ce que nous faisons, c'est simplement par le chant, et pas seulement le chant, la louange, c'est pas seulement chanter, c'est aussi s'exprimer. C'est avoir ce moment privilégié de pouvoir s'adresser à notre Père Céleste, Créateur, Seigneur Jésus. Je suis heureux dans ce moment de louange. Êtes-vous aussi heureux dans ce moment de louange? Il y a des gens qui ne sont pas toujours très heureux dans ce moment de louange pour un certain nombre de raisons. Et des raisons qui sont dans leur tête. La Bible appelle ça des forteresses de raisonnement. Vous êtes d'accord d'abattre quelques forteresses ensemble? 2 Corinthiens nous dit la chose suivante au chapitre 10. Au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et puis ils expliquent ce que c'est des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, bien sûr, il y a aussi des fois, les maux esprits, les démons qui veulent intervenir, etc. Mais fondamentalement, si nous abattons la forteresse de raisonnement, on peut dire que les démons n'ont pas de quoi s'accrocher. Il n'y a plus rien. Ils exercent leur influence dans votre vie sur la base des mensonges qu'ils ont semés dans vos têtes. Sur la base de tous vos sentiments qui ont été blessés, de tout ce que vous gardez. C'est comme des points où ils peuvent s'accrocher, où ils peuvent s'installer. Alors si vous abattez la forteresse sur laquelle ils s'appuient, il ne leur reste plus d'appui. C'est pour ça que nous utilisons la parole de Dieu. De la même façon que nous pénétrons dans un lieu obscur, on allume la lumière et les ténèbres s'en vont. D'accord ? On n'essaye pas de vider ce lieu de ténèbres pour pouvoir y mettre la lumière. C'est au moment où nous mettons la lumière que les ténèbres reculent. Donc, nous apportons la lumière de la parole de Dieu et alors nous observons que les forteresses de raisonnement tombent. Alors, il y a beaucoup de forteresses dans le domaine de la louange, surtout la louange avec musique, instrument. Il y a déjà toutes les forteresses concernant les styles de musique. La musique a été inventée par Dieu. C'est un véhicule, c'est quelque chose qui peut porter un message, qui peut porter des sentiments, qui peut porter beaucoup de choses. C'est comme un véhicule. D'accord ? On est d'accord avec ça ? La musique est comme un véhicule. Donc, il peut y avoir mauvaise utilisation d'un véhicule. Différence entre quelqu'un qui simplement se déplace ou qui conduit quelqu'un et quelqu'un qui est un danger pour les autres sur la route. De la même façon, la musique est un véhicule. Donc la musique peut être pervertie, mais ça ne veut pas dire que la musique n'est pas bonne. Alors il peut y avoir toutes sortes de styles de musique et il y a beaucoup de raisonnements sur justement les styles de musique. Il y a des gens qui rentrent, ils ne sont pas heureux dans la louange. Parce que c'est pas mon style de musique. Mais si tu aimes une musique, écoute-la 6 jours sur 7, écoute-la chez toi autant que tu veux. Mais quand nous venons ensemble, ce qui est important n'est pas tellement le style de musique, mais mon état d'esprit, mon attitude. Qu'est-ce que je vais faire? Et je peux vous assurer que moi je peux être heureux dans la louange, dans n'importe quelle église. Je dis dans n'importe quelle église. Heureux dans la louange. Ça ne veut pas dire que c'est mon style préféré, forcément. Hein? On a notre pasteur Philippe qui était en Afrique. Enfin, c'était un style totalement différent. Eh bien, nous avons aussi un frère qui est organiste, là, qui est droit devant moi. Et donc, une musique d'orgue, ça donne encore un style différent. Et on pourrait continuer. Et si je venais vous visiter dans vos maisons et regarder les disques et les cassettes que vous avez, peut-être on serait étonné de la grande palette et large ouverture. Mais donc, la forteresse de raisonnement à battre, ça ne dépend pas de ça. Une louange de qualité, un moment heureux dans le Seigneur, dépend d'une seule chose, mon attitude de cœur. C'est tout ce qui compte. Et je me rappelle toujours, c'est dans un livre de... c'était un des fondateurs de Jeunesse en Mission. Et dit, lorsqu'il y avait une réunion, il y avait une fois deux hommes qui étaient âgés, qui sont venus et qui ont fait une louange publique. Il y avait un qui jouait d'un violon, ça grinçait un peu. Et puis l'autre, comme ils avaient un certain âge, la voix était un petit peu chevrotante, etc. Et puis il était un peu... Alors notre leader chrétien était un peu crispé parce qu'il s'est dit, oh, c'est une réunion publique, et puis il y a tous ces gens-là. Et puis il était sur le point d'arrêter ça. Et Seigneur... parle en lui et dit, stop, surtout n'interviens pas, ne fais rien, pour moi c'est la plus belle des louanges. Et pour moi c'est toujours quelque chose qui me rappelle l'importance que Dieu regarde au cœur. Donc si nous voulons être heureux dans la louange, je vous le garantis, on peut être heureux avec n'importe quel style. Et nous avons peut-être l'habitude de certains de nos chants, et c'est intéressant de voir que lorsque quelqu'un arrive de l'extérieur, peut-être qu'il n'y connaît rien du tout, un jour quelqu'un m'a surpris parce qu'il a dit, ah, vous chantez un style de je ne sais plus quoi. Mais donc ça lui rappelait quelque chose d'entendu à la radio ou de... ça peut ressembler, vous savez. Donc heureux du moment de la louange, c'est un moment important. Il y a des fois les gens aussi, ils ont fait leur choix sur les moments du culte qui leur plaisent le plus. Il y a ceux qui veulent la louange, surtout la louange. D'autres, ils sont au culte parce que surtout ils ont besoin de rencontrer des gens. Donc c'est la communion fraternelle qui les intéresse. Rester, bavarder, avant, après, etc. Et donc c'est bon aussi. Et d'autres, ils veulent la parole. Alors pourvu que le début soit vite passé, pour qu'on passe entre guillemets aux choses sérieuses. Mais tout ça forme le culte. Tout ça, tout ça. Et tout est important. Et tout a sa place. De la même façon que dans notre vie, nous avons besoin d'un équilibre de beaucoup de choses. Donc, on peut être heureux de ce moment de louange et le vivre pleinement. Et il sera d'autant plus béni que nous allons commencer tous à nous abandonner au Saint-Esprit. Amen. Tout le monde est d'accord pour ça? S'abandonner au Saint-Esprit, ça veut dire justement laisser le Seigneur changer notre cœur et avoir cet état d'esprit positif à l'égard de la louange. Soutenir tout ce qui se fait. Le moins possible, déranger les autres et distraire. Et je m'en excuse et je n'en suis pas content que ce soit justement nos petits aussi qui circulent là. On n'a pas trouvé encore de bonne solution parce qu'on veut les avoir au milieu de nous et puis au bout d'un moment, ils ont envie de bouger. Je sais que là, quand ça passe tout le temps, certains d'entre vous se laissent distraire. Mais vous n'avez pas besoin de vous laisser distraire dans le louange, vous le savez? C'est possible. C'est possible de nous abandonner à Dieu et de dire, non, je ne regarde pas maintenant ce qui se passe là en bas. Je fixe toute mon attention sur le Seigneur. Je le loue de tout mon cœur. Parce que vous savez, si vous attendez que toutes les circonstances soient parfaites pour que vous puissiez vous abandonner à Dieu, le diable va faire certainement ce qu'il faut pour qu'il y ait toujours quelque chose qui vous distrait. Et si vous n'arrivez pas à le louer dans ces conditions, comment allez-vous le faire quand vous serez dehors dans avec vos difficultés, avec ce monde qui nous agresse constamment? Alors vous allez vous appuyer sur la chair et vous débrouiller par vous-même. Et c'est dommage parce que vous pouvez avoir le secours de Dieu. On peut être heureux au moment de la Sainte Cène. Heureux au moment de la Sainte Cène, c'est un moment où... Non, pas une habitude, oui, mais j'en ai déjà fait des dizaines de saintes scènes, toujours la même chose, on prend le petit morceau de pain, etc. Non, chaque sainte scène est un moment de communion avec Dieu. Moi, vous pouvez vivre le ciel sur la terre pendant la sainte scène, vous réalisez ça. Jésus s'est engagé, il a dit, je frappe à ta porte, si tu m'ouvres, je viens et je prends la communion avec toi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand que d'être... dans un moment de communion avec Jésus. Ça dépend de qui? Pas de lui, il frappe déjà à la porte. Pas des autres. Personne n'a dit que c'est les autres qui ont la clé de la porte. C'est vous qui avez la capacité d'ouvrir et de le laisser entrer. Ça dépend de vous. Là encore, est-ce que vous n'allez pas prendre la Sainte Cène parce qu'il y a à droite, à gauche ou quelque chose qui se passe? Non, vous dites, ça c'est mon moment avec le Seigneur. Et je ne veux pas me laisser distraire de ça. Je veux maintenant recevoir de lui. Et qu'est-ce que vous recevez de lui pendant ce moment? Je ne vais pas faire un enseignement complet sur la Sainte Cène. Mais vous recevez le sang de Jésus. Vous réalisez à nouveau la valeur du sacrifice. Pourquoi on parle du sang? Le sang est important parce que dans le sang, il y a la vie. Quand tout le sang a coulé, ça veut dire que toute la vie a été donnée. Il n'a pas donné juste un petit peu. Il a donné sa vie tout entière. Donc, je suis heureux et honoré que quelqu'un ait voulu mourir pour moi. Non? Il y a plusieurs films qui existent, qui parlent des gardes-corps, etc. Un garde-corps, c'est son job. Le jour où la personne qu'il doit protéger est attaquée, il doit se mettre entre, même au risque de sa vie. Sinon, ça n'a aucun sens ce qu'il fait. D'accord? Je ne sais pas s'ils ont tous bien réalisé jusqu'à quel point ça peut leur coûter, mais on entend souvent aux informations qu'il y a des gens qui ont été tués, des agents de sécurité, etc. C'est leur métier. Leur métier, c'est d'être prêt à donner leur vie. En quelque sorte, on peut dire que c'est vraiment un métier noble. C'est quelque chose d'élevé. Vous seriez honoré, vous, d'avoir un garde-corps? C'est des gens importants qui ont des garde-corps, hein? Non? Vous ne seriez pas content? Il y a quelqu'un en permanence, là, pour s'occuper de vous, de votre protection, que tout aille bien? Nous avons mieux que ça. Nous avons Jésus, le Fils de Dieu, qui était devenu à notre place. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Donc on peut dire que c'est la personne la plus importante dans l'univers qui vous a servi de garde-corps et qui a donné sa vie pour vous. Et maintenant, au travers de la Sainte Cène, nous sommes heureux parce qu'on réalise, chaque fois qu'on prend le petit gobelet, réalise, le sang a coulé pour que j'aie la vie. Alors ça doit aussi suffire pour nous faire louer le Seigneur jusqu'à ce soir. Ce ne sont pas des banalités. Vous pouvez choisir de rentrer à l'église heureux et de ressortir heureux et d'être heureux pendant le temps de l'église et d'être heureux encore chez vous à la maison. Vous pouvez le choisir. C'est Jésus dans le sens de la parole, mais dans Deutéronome, il est dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Nous ne voulons pas être des chrétiens moribonds. On veut être heureux de vivre dans la présence de Dieu. Numéro 9. Neuvième raison d'être heureux. Heureux du moment de l'offrande. Alléluia. Le moment de l'offrande est un moment joyeux. Un moment heureux. Le diable a beaucoup travaillé dans ce domaine. Beaucoup. Il a travaillé notamment, et ça c'est bien triste, en utilisant des soi-disant serviteurs de Dieu pour abuser les gens, pour voler leur argent. La Bible dit, j'ai parlé tout à l'heure de ceux qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et la suite du passage c'est ce sont ceux qui dévorent les maisons des veuves. Ceux qui dévorent les maisons des veuves. Qu'est-ce que c'est une veuve? On sait ce que c'est, une personne qui a perdu son mari. Mais dans la Bible, le mot veuve exprime une personne fragile. Parce que il était rare dans les temps bibliques qu'une personne qui soit veuve puisse être socialement en bon état. Elle avait perdu la source de ses revenus, elle dépendait souvent des autres. Et donc il y avait une détresse, il y avait une fragilité. Et le Seigneur, quand il voit ça, il dit, cette personne qui est veuve, la veuve et l'orphelin sont des personnes auxquelles le Seigneur s'adresse particulièrement pour dire, je sais dans quelle situation tu es, et moi, je veux être celui qui est ton soutien. Et Jacques 2 nous dit, la religion pure et vraie, c'est celle qui consiste à soutenir l'orphelin et la veuve et se préserver des souillures du monde. Nous sommes appelés à ça en tant que chrétiens, à suivre l'exemple de notre Père Céleste. Vous comprenez ça? Et à être particulièrement des soutiens auprès des personnes qui sont dans une position de fragilité ou de détresse ou qui ont besoin quelconque. Et qu'est-ce que nous avons vu ici? Nous avons vu l'inverse se produire. C'est que des gens, au lieu d'être le soutien et l'aide, ce sont ceux qui dévorent les maisons des veuves. Donc nous avons vu des serviteurs de Dieu qui, au lieu d'aider les gens à progresser, à grandir en Christ, à savoir profiter des biens qui sont les leurs par héritage, au contraire abusent des personnes. Et je plains et beaucoup ces gens-là, parce qu'ils seront jugés sévèrement, dit la Bible. Ils seront jugés sévèrement. Et moi, je ne voudrais pas être à leur place. Alors, le moment d'offrande, comme je l'ai dit, il y a des choses qui ont été perverties dans le domaine de l'argent, mais c'est un moment où nous devons être heureux. Heureux parce que nous faisons quoi? Nous réalisons qu'il y a une alliance de Dieu avec nous, y compris dans ce domaine. que Dieu qui est à l'origine de toutes choses, et David l'a bien exprimé, il a dit, Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. Vous le reconnaissez ça? On peut faire le test, hein, voir si vous le reconnaissez. Le test, c'est le moment de l'offrande. Si on reconnaît que tout ce que nous avons vient de Dieu, on n'a pas d'objection à redonner une partie pour investir dans l'œuvre de Dieu. Si nous reconnaissons, nous disons non, c'est moi. La force de mes bras, mon intelligence, mon travail qui m'ont acquis tout ça, c'est à moi et j'en fais ce que je veux. Et par là, nous montrons que ce qui est important à nos yeux, c'est nous, moi, et tout en, tourne autour de notre personne. Montrons par là la cupidité, de l'avarice, de l'égoïsme, toutes des choses qui ne sont pas bonnes. Et que c'est, en plus, ce n'est pas la bonne méthode de vraiment être pourvu à tous égards. Mais la méthode de Dieu est meilleure. D'accord? Si vous ne voulez pas donner à l'œuvre de Dieu, vous voulez le garder pour qui alors? Pour qui? Vous-même? Vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais vous avez aussi le droit de participer à ce qui se fait. Et d'avoir la joie de voir les résultats de ce que vous avez semé. D'accord? Moi, je voudrais que mon capital au ciel soit le plus grand possible. Pas le plus petit possible. Juste, surtout que j'ai donné le minimum. Vous savez, un jour on partira aussi d'ici. Et tout le monde le sait. On n'emmènera rien du tout. On n'emmènera rien du tout de ces choses-là. Mais ce que nous aurons semé pour l'éternité, on va le récolter selon l'Esprit. Et moi, mon objectif, c'est de pouvoir donner le maximum pour l'œuvre de Dieu. Le maximum. J'aime beaucoup quand on entend des histoires comme celle de Monsieur Colgate. Vous connaissez l'histoire de Monsieur Colgate? Monsieur Colgate était un petit jeune homme sur un bateau et le capitaine de ce bateau l'a pris un petit peu sous sa charge. Et ce capitaine était un chrétien. Et il l'a enseigné et il lui a parlé de certaines choses concernant l'alliance qu'il avait avec Dieu et comment il pouvait honorer le Seigneur dans les dîmes et les offrandes. Et ensuite, il a commencé à travailler dans une usine de savon, comme simple ouvrier, M. Colgate. Et il a grandi, le Seigneur l'a béni à tous égards, il a grandi tous les échelons pour être le PDG de ce que vous savez être maintenant, une multinationale. À la fin, il donnait 95% de ses revenus à l'œuvre de Dieu. Et il avait largement été richissime avec les 5% qui restaient. Ça, c'est un bon objectif, non? Alors voilà, si vous n'aviez pas d'objectif dans la vie, fixez-vous comme objectif de donner 95%, je ne parle pas de dîmes là, 95%, et avec les 5%, vous êtes encore riche à millions. Qui est d'accord avec ce projet? On peut donc être heureux du moment de l'offrande. C'est un moment où nous permettons à Dieu d'agir dans notre vie, dans ce domaine. Mais je vous préviens, ne donnez pas n'importe où. Je l'ai dit, il y a des voleurs dans le troupeau. Il y a des loups qui se sont introduits. Et il y a, dans l'église de Jésus-Christ, des gens qui ne sont pas dignes de recevoir des offrandes. Ils n'ont qu'à aller travailler et eux-mêmes soutenir l'œuvre de Dieu. Comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Il a dit que celui qui ne travaille pas, ben qu'il ne mange pas non plus. Mais celui qui travaille, l'ouvrier mérite son salaire. Et moi je dis, il y a beaucoup qui veulent se donner des titres, mais si on veut vraiment servir le Seigneur, lui, il saura montrer quels sont les vrais serviteurs de Dieu, quels sont les ministères. Tout sera dévoilé. Et ça ne sera pas glorieux pour certains. Donc, exercez le discernement. Sachez ce que vous faites. Numéro 10, nous sommes heureux d'entendre la parole. Je suis heureux au moment où on ouvre la Bible. C'est parce que où vous en êtes dans votre culte personnel, si vous vous jetez sur la parole de Dieu pour la dévorer tous les jours, ou si vous la lisez de temps en temps parce qu'il faut bien faire le devoir religieux de lire sa Bible, mais on doit être heureux quand c'est le moment de la parole. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui est en train de nous parler. D'accord? Moi, je vous parle, vous entendez ma voix, mais j'espère bien que c'est Dieu qui est en train de vous parler. J'en suis convaincu. qu'à travers, parce que c'est très large, les 12 choses que je suis en train de dire, il y en a pour tout le monde. Chacun peut en prendre, d'accord? Peut-être pas sur les 12 points, mais il y a certainement des domaines dans lesquels vous pouvez grandir. Heureux d'entendre la parole parce que nous avons Romains 10, 17 qui dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Hier matin, il était 10h17 sur la montre. J'ai dit à mon épouse « Il est 10h17, qu'est-ce que ça dit pour toi ?» Et elle a tout de suite su que c'était Romains 10, 17. C'est ça, être rempli de la parole de Dieu. C'est ça, avoir réalisé que ça, c'est notre nourriture quotidienne. C'est nos vitamines. On connaît Romains 10, 17. Et comme, on n'est pas souvent réveillé à 3h16, mais ça peut vous évoquer Jean 3, 16. Mais ces choses-là, ça nous parle parce que la parole est vivante. Et quand on entend la parole de Dieu, même qu'on entend encore Jean 3,16, qu'on a entendu depuis 20 ou 30 ans, eh bien c'est encore vivant. Et on est encore heureux que Dieu ait envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous n'êtes pas heureux d'entendre que quiconque peut recevoir la vie éternelle? Quiconque, c'est quiconque. Tout le monde a la capacité, pas seulement quelques-uns. Mais ça veut aussi dire que quiconque, c'est tout le monde en a besoin. Ce n'est pas seulement une possibilité ou une invitation, c'est aussi une nécessité. Alors prenez-le comme vous voulez, mais il faut que vous naissiez de nouveau. Le 11, c'est « on est heureux au moment de l'appel ». Nous voulons de plus en plus que nous ayons des moments où nous puissions appeler. Appeler, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, on a entendu la parole de Dieu, on a fait beaucoup de choses ce matin, et on va faire un moment de prière, d'appel. Qui est-ce qui appelle? C'est Jésus qui appelle. Il dit, venez, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'homme. C'est-à-dire, il appelle, il désire à ce moment-là qu'on puisse répondre à cet appel. C'est une invitation. L'appel est une invitation de Dieu à vivre quelque chose avec lui. Je pense que vous avez vécu des choses tout au long de ce culte. Vous pouvez vivre quelque chose dès la première minute. Mais au moment de l'appel, vous pouvez encore une fois concrétiser. Pour celui qui n'est pas sauvé, c'est-à-dire que le moment de l'appel, c'est le moment où il répond. Et dit oui, je veux devenir chrétien. Je veux de ce Jésus. Pour celui qui est malade, ça veut dire qu'il a reçu la parole peut-être tout au long. Mais si on fait un appel en disant, on va prier pour les malades, c'est-à-dire que maintenant on peut établir un point de contact et dire à ce moment-là, quand on a prié pour moi, qu'on m'a imposé les mains, là je reçois la puissance de Dieu. Vous savez, je l'ai souvent dit et je répète encore, la puissance de Dieu, elle est présente dans cette salle, elle est présente dans cette église, tout le temps. De la même façon que physiquement, dans cette salle, nous avons de l'électricité dans tous les murs. Mais on ne ressent pas cette puissance à moins qu'on mette les doigts dans la prise et là on se rend compte qu'il y avait de la puissance. Donc, ne disons pas, la puissance de Dieu n'est pas là, mais disons au contraire, la puissance du Seigneur était présente. D'accord? On parle souvent de la présence de Dieu. Elle est là parce que il s'est engagé à ce qu'elle soit là. Soyez heureux au moment de l'appel. Ne vous cachez pas, mais répondez à l'appel de Dieu. Et nous ne faisons rien pour vous gêner, pour vous exposer ou quoi que ce soit. Mais en vous-même, dites oui Seigneur, je le veux ça. Je veux ce qui m'est proposé. Je veux ce que j'ai entendu. Je veux que tu puisses agir de telle ou telle façon dans ma vie. Dites-lui oui. Tout le monde peut dire oui?
Oui.
Oui. Et le 12, c'est une parole de Jésus. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. D'accord? Tout cela ne vous sert à rien si vous ne mettez pas en route. Donc, de quelle façon je peux mettre en route? Ben, la prochaine fois, je repasse en revue, la prochaine fois où je dis, oh, c'est dimanche matin, ça va être le culte. Vous dites, vous changez. Vous êtes peut-être fatigué, peut-être que vous n'avez pas envie, vous avez peut-être eu un problème. Vous dites, non, c'est mon moment de rendez-vous avec Dieu. Non, je vais me réjouir parce que le Seigneur sera présent. Qu'il va me rencontrer et qu'on va vivre quelque chose ensemble. C'est là que ça commence le combat spirituel. D'accord ? Vous n'attendez pas de voir ce qui va se passer, mais vous anticipez. C'est ça qui est important. Anticiper. Aller à l'avant. Je suis content que quand le diable fait quelque chose, le Seigneur n'est pas pris de court. Il dit pas, oh, qu'est-ce qu'il nous a encore fait, le diable? Maintenant, il faut que je trouve une solution pour le contrecarrer. Non. La Bible nous dit, dès avant la fondation du monde, tout était déjà prévu pour le salut de l'humanité. Quand le diable a poussé les gens à commettre la haute trahison de suivre leur propre penchant et le péché plutôt que Dieu, le plan de salut était déjà en place. Et tout ce qui arrive dans votre vie, il y a déjà tout qui a été préparé. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit cela. On peut le dire ensemble. Aucune tentation ne vous est survenue. Dites-le à votre voisin. Aucune tentation ne t'est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Il est dit, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il dit, il prépare le moyen d'en sortir. Donc, anticiper. C'est pas au moment de quand le serviteur de Dieu ou celui qui est là dit voilà, on va faire le moment de l'offrande. Il faut dire qu'est-ce que je dois donner, qu'est-ce que je dois faire, ou est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie. Ces choses-là se passent chez vous, dans votre moment de prière avec Dieu. Dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour mes affaires? Comment est-ce que tu veux agir? Où est-ce que tu veux que j'investisse? Où est-ce que tu veux que je donne? Et dire eh, Seigneur, j'ai tel besoin. Je m'attends aussi à ce qu'il y ait un retour. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Parce que même des fois de faire un truc qui semble spirituel, on va prier, puis on va demander au Seigneur de vous montrer la somme que vous devez mettre. Moi, je n'y crois pas à ces trucs-là. Je n'y crois pas trop. Parce que il peut se passer n'importe quoi dans notre tête. Peut-être même quelqu'un sous le coup de l'émotion va donner une grosse somme et après il réalise, mais je me suis mis dans l'embarras. D'accord? Moi, je crois plutôt que c'est à la maison que ça se fait. On le met tout devant le Seigneur, on dit, voilà, comment tu veux que je gère mes affaires? Et toutes les autres choses aussi. Pour votre place, qu'est-ce qui va-t-il se passer si vous avez maintenant une place et qu'un jour quelqu'un va prendre votre place? Votre chaise est occupée le dimanche matin. Que va-t-il se passer? Est-ce que votre joie va être envolée? Ou vous direz, merci Seigneur, tu as certainement une meilleure place pour moi. Montre-la moi. C'est une question d'attitude. Amen. Voilà. J'étais heureux de vous faire ce message. J'espère que vous serez heureux de le pratiquer. Et prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour chaque personne présente ici ce matin, qui se sont déplacées, qui ont cru qu'il y avait un rendez-vous avec toi. Et ma prière pour eux, c'est qu'aucun ne reparte comme il était, mais qu'ils réalisent ta présence dans leur vie, qu'ils réalisent que tu es là, que tu les aimes, que tu veux agir selon Éphésiens 3:20. Il nous dit que Dieu peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Merci Seigneur, tu es le Dieu de l'infiniment au-delà. Déclarons-le ensemble. Merci Seigneur. Tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.